Petit pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Alice Milo.
Bonjour. 2016, la page se tourne et le bilan est lourd. Ce fut l'année la plus chaude depuis le début des mesures en 1880. Le climat bat des records, environ 1,2 degré au-dessus de la moyenne du XXe siècle, selon l'Organisation météorologique mondiale. Des données alarmantes qui donnent encore plus de valeur à l'accord de Paris, signé à l'issue de la COP21, et qui vise à limiter le réchauffement en dessous de 2 degrés. Alors si on s'y tient, à quoi ressemblera notre vie quotidienne en 2050 ? C'est la question que s'est posée Pierre Radan, spécialiste de l'énergie et du climat. Avec son association 4D, il a eu l'idée d'inventer des récits de vie futuristes dans une dizaine de pays. De la fiction pour comprendre le réel. Aujourd'hui, on écoute le portrait de Zara, qui nous écrit de Casablanca au Maroc et qui a imaginé à quoi ressemblera sa vie en 2050.
C'est pas du vent. Sur RFI.
Souera bar sawa ya siadi ki fulilla eh chalaba eh salame.
Quand j'étais adolescente dans les années 90, j'étais inquiète. Ce qui m'a construite, c'est l'amour de mes parents. Mon père m'a appris la volonté, ma mère l'écoute des autres. Aujourd'hui, en 2050, je suis devenue une femme respectée. Je n'ai pas de diplôme, je ne sais même pas bien lire. Mais grâce à eux, j'ai appris à avoir confiance et savoir à qui faire confiance. Avec mon mari, Hassan, on a un beau magasin de textiles à Casablanca, des produits de qualité. Et moi aussi, avec mon mari, nous avons voulu aimer nos enfants, bien les éduquer pour pouvoir leur promettre un avenir. Hassan a ouvert son commerce dans le quartier de Dalbromar. Il avait 28 ans, moi à peine 20. On a réussi à acheter l'appartement au-dessus. On y vivait quand notre troisième enfant est né. On était bien. Un grand séjour, un salon avec tapis en laine et deux tables capables d'accueillir 30 personnes. Trois chambres et une salle de bain et une cuisine. Vers 2016, ma fille, l'aînée, avait été bénévole pendant la COP à Marrakech. On a connu l'époque du diesel, nous. À l'époque, Hassan polluait encore comme un chien avec sa vieille camionnette. Notre aîné nous disait que le Maroc produisait de plus en plus d'électricité verte. Nos enfants nous demandaient de changer, surtout leur père, et il l'a fait. Sa camionnette, comme beaucoup d'autres, est devenue électrique. Nos enfants ont vu cet effort. Et puis, il y a eu la concurrence. La Seine n'a plus pu mener son commerce pareil. Quand tout le monde a voulu acheter des habits pas chers, importés de loin, qu'est-ce qu'on a fait? On a encore plus travaillé. La Seine n'allait plus trop dans le sous pendant cette période. Je partais seule avec les enfants. Ce n'était pas facile de garder tous nos employés. Ça me faisait mal au cœur. Ils venaient d'Inzigan comme nous. En 2030, notre fils a pris le relais. Il est allé en Chine pour négocier avec les industriels du textile. Il a changé progressivement les méthodes de gestion, comme s'il fallait mieux connaître les ordinateurs que les vêtements. Pendant que l'une nous disait de vivre autrement, l'autre nous disait que nous devions travailler autrement aussi. Je n'aimais pas vraiment sa vision des choses, mais il avait raison à ce moment-là. Après, j'ai pensé que pour mon aîné, travailler, ça voulait dire ne plus avoir de temps pour être là pour les fêtes, être dans l'avion tout le temps, négocier des salaires toujours plus bas des ouvriers et des ouvrières. C'était pas vraiment ça qu'on voulait lui transmettre. Alors, j'ai vu la scène commencer à parler aux gens dans les transports. En 2030, il y avait le tramway, on le prenait. On prenait aussi le train, tous les deux. Le TGV allait déjà à Agadir en 2040. On avait des magasins sur la côte. En parlant avec les gens, on leur disait de consommer local, des vêtements faits ici, de privilégier la qualité. On mettait des accessoires jolis sur des vêtements qui duraient plus longtemps. Et la merveille, on a touché leur cœur. Les affaires ont repris et même encore mieux marché. Nos efforts et l'organisation de mon fils s'additionnaient. Voilà ce que consomment les gens, comment ils font leur choix. Je l'ai vue tous les jours depuis 40 ans. Une commerçante, c'est un observatoire sur pattes. Et mon message, c'est ça. Contre le réchauffement climatique, commençons par réchauffer le climat entre les gens. C'est-à-dire la façon dont on se parle. Parce que nous, les êtres humains, on est fait comme ça. La peur de l'autre nous guette sans arrêt. Et la peur, cela nous paralyse aussi. Or, la vie, c'est comme le commerce. Il faut avoir envie ensemble, non ? Ma fille, celle qui est devenue technicienne dans l'énergie solaire, elle est fière. Elle me dit que nous sommes parvenus à vivre différemment pour protéger le climat. Quelle bonne nouvelle ! Nous l'avons fait sans renoncer à ce qui compte pour nous, sans compromettre notre solidarité sociale, notre générosité vis-à-vis des nôtres. Il reste du boulot, mais on tient le bon bout. Mais si je peux me permettre, ce n'est pas que par la science et les grands mots savants qu'on y arrivera. Non, il y a aussi le climat entre les gens. Et lui, il faut le réchauffer. Quand on parle climat, parlons aussi d'amour de nos enfants, des miens, des vôtres et de tous les enfants du monde. Leur vie commence, promettons-leur un bel avenir pour qu'ils se construisent comme nous, nous nous sommes construits.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Reportage au Québec. Le Québec qui se classe parmi les provinces canadiennes les plus riches. Et pourtant, au cœur de l'hiver, où les températures avoisinent les moins de 10 degrés, les fruits et légumes manquent. Des centaines de milliers de citoyens doivent faire appel aux banques alimentaires chaque mois pour se procurer de la nourriture gratuitement. Dans la région de Québec, une ferme fournit justement ses banques alimentaires en carottes, en choux, en navets, grâce à l'aide dans ses champs de milliers de bénévoles. Pascal Guéricola, notre reporter, a assisté à la récolte des choux par une humide journée de novembre.
Les yeux minces, Glenn.
Ouais, ça c'est.
Dans le champ parsemé de gros choux verts, la boue colle aux bottes des bénévoles qui avancent au rythme des tracteurs. Sous une pluie tenace, plusieurs personnes forment une chaîne pour ramasser des choux lourds de plusieurs kilos, se les envoyer avant de les déposer dans la remorque en mouvement.
Aïe, aïe, d'une seule main.
Ce jour-là, une équipe d'employés de banque de la Caisse des Jardins est venue donner un coup de main.
Aïe, 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 aïe.
Bienvenue à la ferme des Moissonneurs solidaires. Installée en périphérie de la ville de Québec, cette propriété appartient à Défi Jeunesse, un organisme évangélique qui se consacre à la remise sur pied d'hommes malmenés par la vie. Pendant un an, ils viennent dans ce coin isolé vaincre leur dépendance à l'alcoolisme, à la drogue et surmonter leur violence. Au menu, travail sur soi le matin sur fond de Bible et travail au champ en après-midi pour préparer la récolte à donner aux banques alimentaires. Une expérience que Christian vient de vivre cette année.
C'est-à-dire, on vit le garde-manger des pauvres du Québec. T'sais, ça part à la semence, jusqu'à l'entreposage, jusqu'à la distribution. Fait que juste d'être dans ce projet-là, c'est vraiment... juste ce projet-là, je pense que ça peut nourrir notre désir là, vraiment de faire du bien au travers, là, à travers les légumes qui sont distribués.
Vous gênez pas pour manger, tout le monde. On commence par la droite, on se ramasse une soupe, il y a des bouteilles d'eau, il y a du café, la bonne tarte aux pommes.
Les bénévoles viennent se sécher et manger un repas chaud sous l'abri de la salle à manger. Au menu, les produits qu'ils viennent justement de récolter dehors. Chaque semaine, des équipes d'employés, d'écoliers ou de retraités assistent la vingtaine d'hommes qui résident sur la ferme. Le but, rendre possible le don de 90% de la récolte à des organismes de charité, comme l'explique le directeur de Défi Jeunesse, Ronald Lucier.
On a deux fermes. On a une première ferme de 66 hectares et une d'une quarantaine d'hectares. C'est en 50% maraîchage, 50% forêt et la même chose sur l'autre ferme, c'est 50%. Cette année, on a cultivé 6 légumes. Nos légumes de base, c'est vraiment du légume racine comme le navet, le rutabaga, ou le poireau ou la carotte. Et on a également le chou, on a la courge, et ainsi que le maïs et la betterave, mais en plus petite quantité. La carotte, c'est vraiment une réussite totale. Ainsi, le poireau, il est extraordinaire. Et le chou, on a du chou jusqu'à 17 livres, environ 7 kilos. Donc, c'est énorme. on est sûr de dépasser notre objectif qui était de 415 000 kilos. Fait que depuis 5-6 ans, c'est toujours l'objectif. L'année passée, on a réussi à produire 507 pour en donner 452 000 kilos aux banques alimentaires. D'une année à l'autre, on en vend entre 5 et 10 % à un maraîcher du secteur, de qui on a acheté une ferme. C'est une entente qu'on a avec lui, parce que lui approvisionne 2 supermarchés puis 5 petits marchés, 5 petites épiceries. Dans Jacques 1,23, c'est dit la religion pure et sans tâche aux yeux de Dieu le Père, c'est de s'occuper de la veuve et de l'orphelin dans leurs afflictions. Tu prends juste ça, tu n'as assez d'un verset pour faire ta vie, là. C'est que tu t'occupes de la veuve et de l'orphelin. Puis ici, au Québec, les banques, le réseau, les 19 banques approvisionnent 400 000 personnes par mois, dont 35 % sont des enfants en bas de 12 ans. On veut vraiment, nous, faire une différence dans l'approvisionnement des banques alimentaires. Et notre objectif, c'est vraiment d'atteindre le million de kilos.
Bonjour.
Dehors, la pluie incessante a rendu le terrain très boueux et glissant. Jim Skiank, 1,80 m de muscle, dirige les travaux en s'assurant que la récolte se poursuive dans les meilleures conditions pour les bénévoles dans les champs.
Dans les hauts, il se pour lui, tout à temps qu'il y en a une qui revienne de l'usine.
Il
ne
viendra pas de lui.
Ouais?
Il ne viendra pas de lui.
Il fait fort, Mario. Notre bénévole qui est sur le chariot élévateur, reste pris dans la boue, là, pour aller le sortir. Puis c'est des défis, hein, ce temps-ci de l'année, là, avec la météo, on contrôle pas grand-chose. Déjà, avant midi, là, on a 15 000 kilos là, de ramasser. Là. 15 tonnes de légumes juste avant midi. Je vais lâcher un cri. Wow! À ce temps-ci de l'année, avec ce qui reste au champ, on ne peut pas se permettre de ne pas saisir ces journées-là là, pour aller dans les champs pareils. C'est plus glissant, il faut faire plus attention là, avec nos bénévoles. Mais comme je vous dis, les 15 personnes qui voulaient vraiment s'activer aujourd'hui sont en train de faire toute la différence dans nos vies à nous aujourd'hui, là, nous qui gérons le projet.
Récolter, laver, placés en boîte, les légumes des moissonneurs solidaires prennent ensuite la route pour Moisson Québec, un entrepôt qui recueille des denrées pour les distribuer ensuite aux gens dans le besoin. C'est d'ailleurs cet organisme et sa directrice Hélène Côté qui a eu l'idée de solliciter le monde agricole il y a 10 ans pour s'assurer d'avoir accès régulièrement à des carottes, à des navets et à des choux tout au long de l'année. Séduit par l'idée, Ronald Lucier de Défi Jeunesse a sauté dans l'aventure. Hélène Côté.
En janvier, février, on se trouvait avec vraiment peu de légumes. Alors, l'idée de produire des légumes de longue conservation nous permet d'en offrir tout au long de l'année. C'est aussi techniquement plus facile à produire que certains légumes qui demandent une expertise encore plus précise là, que les moissonneurs n'ont pas nécessairement. C'est autour de 30%. Des fruits et légumes qu'on reçoit proviennent de Défi Jeunesse, donc c'est énorme. On dessert 128 organismes tout au long de l'année qui, eux, chaque mois, vont aider plus de 38 000 personnes. Dans notre belle et riche région de Québec, il y a 38 000 personnes qui ont recours à l'aide alimentaire pour répondre à un besoin de base, là, hein, se nourrir. Donc, les légumes qui proviennent de Défi Jeunesse sont vraiment un apport essentiel.
La directrice de Moisson Québec se réjouit des avantages que procure l'alliance avec l'organisme de réinsertion sociale pour garnir ses entrepôts, tout en étant consciente des limites de ce projet original.
C'est des hommes qui ont vécu toutes sortes de problématiques. Ils peuvent avoir un problème un matin, c'est vers la personne qu'ils vont se tourner pour travailler, pour l'aider à dépasser ses difficultés et non pas dans le champ. Donc, c'est la réalité aussi. Il y a une crise dans le centre d'hébergement. Ils peuvent pas, les gens, aller cueillir, même si le légume est prêt là. Donc, les haricots, ça a été un fiasco parce que le haricot, il faut qu'il soit pris au bon moment. Et on n'avait pas toujours les gens au bon moment pour cueillir. Et ça prend beaucoup de temps pour des petites quantités. Alors, on a fait le choix d'aller faire des légumes qui sont un peu moins délicats à cultiver. Plusieurs, enfin, ils font quelque chose dans la vie qui est apprécié, qui est utile pour d'autres. Et ça, on le voit vraiment dans leur visage. Ils sont contents de contribuer socialement. C'est clair qu'il y a une fierté qui est derrière leur action et avec raison, je dirais.
Marc-Alain, c'est un de nos résidents. Okay. Aujourd'hui, c'est lui qui est chef d'équipe avec les groupes. On lui a montré, ça fait plusieurs groupes, là. Il prend en charge, puis ça va très bien. Un jeune homme de 22-23 ans qui est arrivé ici il y a 6 mois. Il n'avait pas vraiment. Il n'avait jamais travaillé, il n'avait jamais. C'est
C'est vraiment beau de le voir aller.
Au fil des ans, la production des moissonneurs solidaires n'a cessé d'augmenter. En plus de Québec, les moissonneurs desservent aussi des banques alimentaires à Montréal ou dans d'autres villes de la province. Du coup, cela donne des idées à d'autres personnes à la recherche de nouveaux modèles sociaux. Stéphane Arsenault et sa conjointe visitent la ferme ce jour-là. Ils cherchent à mettre leur champ au service de gens qui font appel régulièrement à des services alimentaires gratuits.
Ils ne sont pas pleins, on va au moins remplir cette charrette-là.
On aimerait essayer d'aller chercher les personnes à qui les paniers vont pour essayer de rallumer la flamme en dedans, leur autonomie. Pas juste alimentaire, mais sur toutes les plaques. Moi, je suis en train de reprendre les rabillères à mon grand-père. La terre, il y avait un petit bout à côté aussi qui était cultivable. On veut la rendre disponible sous forme de plateau de réinsertion. On visite plusieurs organismes comme ça pour aller dire « OK, ah, ça m'intéresse. » Puis apprendre des expériences passées des autres organismes pour mettre la nôtre sur pied avec beaucoup d'accompagnement et de support autour, là, parce qu'on ne fera pas tout seul.
Porté par le désir de fournir des légumes, Ronald Lucier rêve d'exporter son modèle hors du Québec.
Nous avons la détermination, nous avons vraiment l'engagement d'abord de l'équipe qui est ici et des bénévoles. Là, il y a des bénévoles qui viennent aux environs de 2000 bénévoles par automne pour venir récolter. Ça vient des écoles, ça vient des cadets de l'armée, ça vient des corporations comme aujourd'hui Desjardins. Mais durant l'année, durant tous les autres mois, il y a des bénévoles qui viennent toutes les semaines pour préparer les légumes, pour labourer, pour faire ceci et faire cela. Et en général, c'est des gens qui sont retraités, qui sont encore en pleine santé, qui veulent vraiment faire une différence dans la société.
Est-ce que vous auriez pu faire tout ça si vous n'aviez pas aussi la composante chrétienne et d'évangélique, finalement?
Bien, ce qui arrive, c'est que ce que je crois, c'est que pour partir un projet de même, ça prend l'inspiration. L'inspiration venant du mot « esprit », je crois vraiment qu'on a été inspiré d'en haut.
Moissonneurs sans frontières pourrait bientôt prendre son envol, d'abord en Afrique, puis peut-être en Floride, où des partenaires se montrent aussi intéressés.
Il y a des gens du Sénégal, de la Côte d'Ivoire qui m'ont écrit, des gens du Burkina Faso qui sont venus 4 fois. Ils veulent importer Moissonneurs solidaires et l'esprit de Moissonneurs solidaires, l'esprit de solidarité qui est en arrière de tout ça. Un de nos projets, c'est vraiment d'amener là-bas de la machinerie. Parce qu'ici, nous, on achète toute la machinerie que les gros producteurs ne se servent plus. Par exemple, j'ai un planteur, j'ai un sarcleur, j'ai un épandeur d'engrais. Tout ça, c'est tout du 4 rangs. Eux, ils marchent à 12, 15, 22, 60 rangs. C'est incroyable avec des machineries là, qui coûtent 200 250 000 $. Nous, c'est la machinerie plus modeste. Et là-bas, ça sera encore plus modeste. Donc, on aura une charrue à 2 versoirs au lieu d'avoir un 7 versoirs ou un 6 versoirs. Puis on est en train de préparer un envoi là-bas. Et il y a plusieurs machineries dont on a fait l'acquisition pour justement démarrer ce projet là-bas. Et la beauté de la chose, c'est que j'en parle à ceux qui sont en ressourcement ici dans cette maison à Défi Jeunesse. Deux hommes qui veulent aller faire un an là-bas, au Burkina Faso, pour vraiment implanter le projet, vraiment avoir pratiqué ici avec ces machineries-là et arriver là-bas, puis vraiment fonctionner. Ce sera les opérateurs pour enseigner aux Burkinabés exactement comment faire les choses. Fait que l'objectif ultime du projet Moissonneur solidaire, qui va devenir Moissonneur sans frontières, ça va être de produire du déshydraté pour les populations en déplacement à cause des cataclysmes ou des guerres. Et on va produire, c'est pour ça le choix des légumes racines, le choix des légumes pour faire du déshydraté, pour faire un sac de soupe déshydraté. Ça arrive dans n'importe quel pays, puis aujourd'hui on sait que dans les camps de réfugiés, il y a des besoins. Ça arrive dans un camp de réfugiés, c'est avec 1 litre ou 2 litres d'eau dans ton sac de déshydraté, tu mets ça au feu, c'est un repas pour une famille.
C'est pas du vent.
On a tous un grand cheminement à faire dans nos vies et on est en train d'inventer les uns et les autres le monde de demain.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Il n'y a rien de plus beau que d'aider l'humanité dans sa progression. Ça donne sens à notre vie, tout ça.
C'était un reportage de Pascal Guéricola depuis Québec. Restez avec nous, c'est pas du vent continue. Juste après le flash, on part en Nouvelle-Calédonie pour parler biodiversité. C'est dans 3 petites minutes, à tout de suite.